那是打高尔夫了。
Au revoir les enfants. À bientôt.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
I love you, but you don't know what you're talking about.
I love you too.
Elle vous a trahi et vous n'avez jamais compris pourquoi.
Comment savez-vous toutes ces choses?
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor. Notre toile est touchée aujourd'hui par les histoires émouvantes filmées par Claude Barat pour Ma vie de courgette et par Ken Loach pour le film I, Daniel Blake. À mes côtés, les yeux et les voix de Myriam, 40 ans, Marie, Rémi et Maria encore. Et nous nous retrouvons d'abord avec Myriam et 40 ans pour parler de Ma vie de courgette. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
La vie de courgette, ce n'est pas du tout la vie d'un légume, mais d'un petit garçon qui a perdu ses parents. Il se retrouve dans un foyer pour enfants où sa vie va complètement changer. C'est là où, avec d'autres enfants, il découvre la vraie amitié et l'amour. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice, ils sont tous leur histoire et ils sont aussi durs qu'ils sont tendres. Et puis il y a cette fille Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et malgré tout, il y a des choses qui nous rendent heureux. Du coup, j'ai hâte d'apprendre vos avis par rapport à ce dessin animé absolument fantastique à mon avis. Et est-ce que vous partagez la même opinion ?
Oui, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est un film assez fantastique. J'ai d'abord vraiment été surpris en allant voir le film parce que je pensais que c'était un film qui s'adressait plutôt à un public jeune, à des enfants. Ce qui est le cas, oui, mais ça s'adresse aussi beaucoup aux adultes, en fait. Mais donc oui, c'est un film qui est très simple, un film d'animation, mais qui pourtant propose des thèmes assez compliqués, assez complexes à comprendre. Et oui, pour ça, je pense que c'est un film qui s'adresse peut-être même un peu plus à des adultes qu'à des enfants.
En ce qui me concerne, à vrai dire, j'ai toujours aimé les films d'animation, donc en fait, j'étais un peu le public visé. Et donc, il n'y avait pas vraiment de problème pour ça. Et en gros, j'ai trouvé le film assez beau. Mais je ne vais pas dire non plus qu'il était transcendant, parce qu'en fait, même si esthétiquement, on a une grosse palette de couleurs, et j'ai l'impression qu'on a vraiment des nuances sur le plan graphique. Je trouve par ailleurs que le film reste simple dans le fond, et c'est peut-être aussi le compromis qu'a voulu faire le réalisateur entre un film pour enfants et un film à plus large public.
Bon là, je vous rejoins à ce point-là, je suis assez d'accord que c'est un film assez adulte, destiné quand même à mon avis pour les enfants aussi. Bon, en gros, je pense que c'est le film, le dessin animé, à voir avec les parents, pour les enfants, pour qu'ils voient ça avec les parents, parce qu'il y a, énormément de questions qui se posent pour les enfants pendant le film. C'est un dessin animé, pardon, assez dur, parce qu'il y a des choses assez compliquées, la mort, le fait que en fait c'est un enfant qui par accident a tué sa mère et tout, c'est assez compliqué. Et pour ça, je pense que quand même, ce sont des histoires racontées d'une façon assez tendre et pas d'une façon violente, parce que finalement on voit pas toute cette violence là.
Oui.
Et du coup, les parents doivent être là pour expliquer et vraiment répondre aux questions de leurs enfants.
Effectivement, je trouve que l'histoire est vraiment intéressante dans le sens où on traverse vraiment plusieurs états émotionnels. En fait, par exemple, si on voit la scène de la chute de la mère, vraiment, on ne sait pas si on doit rire ou si on doit être triste pour la mère qui meurt, finalement.
Mais d'ailleurs, à ce sujet, je trouve que le film ne revient pas du tout après sur le sentiment que peut avoir donc Courgette par rapport au meurtre. Enfin, finalement, il a quand même, par accident bien sûr, et il n'a pas volontairement fait, il a tué sa mère. Mais on ne sait pas ce que ressent vraiment Courgette à ce sujet. Il n'y a pas vraiment de résolution à ce propos, enfin, sur cette situation. Est-ce qu'il se sent mal? Est-ce que... Il a des complexes, on ne sait pas.
Mais je pense que justement, c'est là où l'aspect graphique entre en ligne de compte, parce que Courgette, est peint d'une façon assez particulière. Il a quand même des cernes alors qu'il est plutôt jeune.
Oui.
Et la dureté de sa vie est reflétée sur son visage et sur son aspect physique. Et même dans tout le film, on trouve un certain mélange des textures qui est intéressant de ce point de vue. Et je pense qu'il n'y a pas que les mots qui sont intéressants dans le film, mais aussi l'image.
Oui.
Et dans ce sens, je pense qu'Anastasia serait d'accord avec moi, non ?
Ben oui, je suis absolument d'accord. En fait, je suis d'accord avec Quentin aussi par rapport qu'on ne revient pas vraiment à ce sentiment, à ce fait de, voilà, c'est pas la chose la plus importante que, pauvre Courgette a tué par accident sa mère. Mmh. Mais pour moi, en fait, cela est fait pour que les personnages soient complexes dès le début. Parce que ce qui m'a frappée et ce qui, pour moi, distingue ce dessin animé des dessins animés un peu plus enfantins, on dirait, c'est que il n'y a pas d'une répartition nette entre les méchants et les bons. Il y a des personnages qui sont vraiment très complexes dès le début. Et ça rend le dessin animé assez réaliste.
Oui, on peut penser par exemple à Simon, le personnage qui se présente un petit peu comme le chef des enfants au foyer et qui...
Le méchant, quoi.
Oui, voilà. En fait, pas tout à fait méchant parce que bon, il est un peu dur, il est un peu violent, mais...
Il était en train de développer, en fait.
Oui, oui, c'est ça. Et puis finalement, c'est aussi un peu le père, un père de la petite communauté,
de la bande.
Il défend les enfants,
Je trouve que justement, il y a un jeu sur l'aspect manichéen que les films d'animation pour enfants ont tendance à montrer. Et justement, le réalisateur arrive à retourner cette logique. Et c'est vraiment cet aspect qui m'a intéressée aussi. Et
oui.
Pour montrer que les enfants ne sont pas fondamentalement gentils ou fondamentalement méchants.
Mais là, je crois qu'avec Simon, on assiste en fait à la naissance d'un bonhomme. Parce que finalement, vu qu'on voit son développement, c'est quelqu'un qui d'abord était un peu méchant, qui vers la fin évolue. Ouais. Et grâce aux enfants, à d'autres enfants, en fait, ouais, il devient quelqu'un qui réussit en fait à oublier sa vexation. Parce que bon, ce ne sont pas les enfants qui sont méchants dès le début, c'est un peu la vie dure qui les rend comme ça. Mais lui, il arrive à battre cette vexation, de l'oublier un peu et de devenir quelqu'un de très bien. Mmh. Et je voudrais aussi insister sur le fait que personnellement, moi j'ai vraiment aimé l'animation, pas très moderne, parce que ce ne sont pas des dessins, ce sont des poupées.
Ouais.
Et c'est assez pénible, je crois, de filmer des films comme ça. Parce
image
que,
par image.
Oui, voilà. Il faut prendre énormément d'images pour montrer en mouvement, par exemple. Et les yeux, voilà, dont tu as parlé aussi, Myriam, moi, je les trouve fantastiques parce qu'avec des yeux un peu exagérés comme ça, on voit tous les sentiments des personnages. Moi, je trouve que c'est formidable.
Très juste. D'ailleurs, à ce propos, il y a une scène vraiment... Marc, dans le film, c'est cette scène où ils sont en classe de neige et ils semblent s'amuser, ils semblent avoir tous oublié que ils n'ont pas de parents, finalement ils sont seuls, mais ils s'amusent. Sauf qu'à un moment, sur une piste, un enfant tombe et sa mère vient le chercher, lui fait des bisous. Et ils se retournent tous et ils le regardent, il y a un énorme silence parmi les enfants. Et la photographie, l'image des enfants du foyer qui regardent tout ça dure très longtemps. Et on sent que c'est, malgré tout, c'est très présent le fait qu'ils n'ont pas de parents. Et voilà. Donc,
Il y a aussi le jeu sur les silences qui est intéressant aussi, je trouve.
Effectivement.
Et justement, de ce point de vue... J'avais vu en été La Tortue Rouge et je trouve qu'il y a un aspect, on va dire, équilibré dans le silence. Je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça.
Oui, c'est vrai.
J'avais pas trop aimé La Tortue Rouge parce qu'il n'y avait que du silence.
Oui.
Mais là, je trouve qu'il y a vraiment un équilibre entre la parole et le silence.
Oui, c'est très vrai. Un peu comme si finalement on voyait les choses à travers les yeux des enfants qui n'arrivent pas forcément à mettre des mots sur tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils ressentent.
Moi, je n'ai pas vu La Tortue Rouge, malheureusement. Mais par rapport au silence, je trouve aussi que c'est un aspect assez important. Et d'ailleurs, il y a des épisodes un peu symboliques aussi. Par exemple, Camille est en train de lire, il est sous l'arbre, je crois, elle est en train de lire un bouquin. Il y a Kafka à la couverture et après un insecte. Et là, je ne crois pas que les enfants puissent comprendre la référence. Mais pour moi, c'était une référence assez nette à la métamorphose. Et dans la métamorphose, on parle aussi un peu de l'abandon de quelqu'un de sa famille sans qu'il en soit coupable, en fait.
Oui, c'est très vrai, oui.
Je trouve ça vraiment très intéressant ce que tu dis. Et en plus, je trouve qu'il y a vraiment une peinture sociale intéressante de ce point de vue-là, avec l'évocation des familles d'accueil, l'évocation justement de ces établissements, notamment la tante de Camille qui veut, on va dire, la sortir de cet établissement. C'est vraiment intéressant aussi de ce point de vue-là et que je trouve très intéressant aussi.
Voilà, ainsi je crois qu'on est absolument d'accord.
Une dernière chose, bien sûr. J'ai essayé de faire des courgettes ce midi et je me suis rendu compte au dernier moment que ça avait un petit rapport avec le film. Et je pense que depuis, je ne mangerai plus jamais de courgettes de la même manière.
Ça, c'est bien. On est absolument d'accord, je crois, sur le point de Ma vie de courgette, qui est un dessin animé absolument digne d'être vu. Et je vous invite tous, donc, à aller dans le cinéma.
Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute des méandres creux des reins.
Et maintenant, on retrouve Rémi qui va nous parler du film I, Daniel Blake. Bonjour Rémi.
Bonjour à toi Anastasia et bonjour à vous Marie et une deuxième Marie que je retrouve pour parler donc de I, Daniel Blake de Ken Loach.
Bonjour Rémi.
Bonjour.
Alors à 80 ans, Ken Loach filme une fois de plus les classes populaires où il choisit des personnages sur lesquels la société s'acharne sans pitié. Et en l'occurrence, c'est Daniel Blake, donc charpentier, obligé d'arrêter de travailler après une crise cardiaque, mais à qui l'on refuse les allocations d'invalidité. Daniel n'a donc pas d'autre choix que de demander les allocations chômage et de faire semblant de rechercher un emploi. C'est dans les bureaux d'une administration qu'il rencontre Cathy, mère de deux enfants obligée de déménager à quelques centaines de kilomètres de chez elle pour ne pas être placée en foyer d'accueil. On sent bien qu'ils sont chacun au bord de la rupture, mais tous deux vont se serrer les coudes. Et Daniel entame une bataille, perdue d'avance contre les aberrations administratives. Alors, Marie, qu'avez-vous pensé de ce film ?
Marie avec un S. Moi, j'ai bien aimé, même si on pourra en reparler, il y a des clichés et tout, mais j'ai bien aimé, ouais.
Ben, moi aussi, ça m'a même plutôt bouleversée. Je me suis laissée un peu prendre, prendre au jeu et les clichés, on va en reparler, mais je crois que j'ai pas été forcément... choquée par les clichés. Ça a plutôt bien marché chez moi.
Et toi, Rémi ?
Alors, chez moi, ça a bien marché aussi. Alors, aucune surprise de la part de Ken Loach. C'est le cinéma qu'on a l'habitude de le voir faire. Mais une fois de plus, il réussit à le faire très très bien. C'est un film qui a quelque chose de bouleversant, on reviendra là-dessus. Même si, en effet, ça a été beaucoup décrié, c'est pas un film extraordinaire, c'est pas un film dont on remarque forcément des qualités exceptionnelles, mais c'est un film qui remplit son contrat, en tout cas, de peinture sociale et sa volonté d'éveiller autour des problématiques contre lesquelles le réalisateur lutte encore et toujours, même s'il avait déjà annoncé sa retraite avant de le tourner.
Ouais, je suis assez d'accord. C'est un film, en fait, je dirais... est-ce que je suis influencée par mes cours, mais c'est un film sur l'agentivité, au sens où c'est une peinture sur des individus, un homme, une femme, qui sont vraiment pas broyés par le système, mais qui... ont vraiment de très très fortes contraintes de domination qui pèsent sur eux en termes de domination économique, de domination administrative, etc. Et c'est un film, j'ai trouvé qu'il filmait bien ce tout petit espace de liberté qu'ont les individus pour lutter contre un système qui est beaucoup plus fort qu'eux. Voilà, cette espèce de petit jeu, de petit espace de liberté, j'ai trouvé que c'était, ça marchait bien, quoi.
Ouais, je suis d'accord aussi. Enfin, j'ai trouvé ça surtout très juste. Enfin, j'ai trouvé que la caméra était toujours posée vraiment au bon moment, au bon endroit, sans qu'on soit dans du voyeurisme ou non plus dans un... Enfin, on nous laisse aussi, une fois encore, penser ce qu'on veut plus ou moins. Enfin, en posant la caméra au bon moment, au bon endroit. Et je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Voilà, de filmer l'espace, le bon espace, le bon endroit... Ça m'a vraiment marqué, même si c'est pas forcément extraordinaire, comme tu dis, au niveau, je sais pas, technique, on va pas remarquer des effets, mais justement, c'est ça qui fait pour moi que ça fonctionne aussi.
Exactement, il y a aucune esthétisation, il y a vraiment très peu de travail sur l'esthétique, mais ouais, ça participe d'une démarche très très réaliste, quasi documentaire, de la part du réalisateur, qui s'attache vraiment à rendre compte de la perversité d'un système administratif, et le fait par des procédés qui ne se cantonnent jamais à ce rôle de procédé et qui sont vraiment très très éloquents. On pense par exemple à cette scène où il est sur un standard téléphonique et on voit presque toute sa journée défiler au son de la musique, ouais, du standard, oui, téléphonique. Il y a un certain nombre de scènes comme ça qui s'inscrivent dans le vécu de ce personnage et de toute une classe sociale également.
Ouais, et une chose que j'ai bien aimée aussi dans le film, c'est son rythme, simplement. C'est un rythme lent, contemplatif. C'est pas... Du coup, je trouve pas que ce soit un film mélodramatique, au sens où y a pas des rebondissements tous plus dramatiques les uns que les autres tout le temps, quoi. C'est calme, c'est lent, avec beaucoup de fondu au noir, ce qui est quand même assez rare dans le cinéma, je trouve. Enfin, en tout cas, dans les films que moi, je vais voir. Et je trouve que ça rendait le film encore plus bouleversant, quoi, cette espèce de lenteur. Doucement, les choses se déroulent, et elles se déroulent pas bien, jusqu'à la fin du film. Je sais pas ce que vous en avez pensé.
Oui, si, je suis d'accord. Ce rythme, ce rythme qui est là, et qui fait que c'est pas non plus... Enfin, le film ne devient pas non plus un pamphlet ou un appel à la révolte, clairement. On n'a pas un rythme de révolte ou de révolution. C'est ce rythme assez lent et assez fataliste aussi, qui accompagne l'image, mais qui fait que c'est plus sourd, presque, comme appel à changer les choses, à se révolter. C'est toujours là, forcément, mais c'est pas non plus direct, et ça, pour moi, ça fonctionne aussi grâce à ça.
Oui, et justement, je voulais revenir sur la place très ambivalente de l'espoir dans ce film, parce que on ne sait jamais vraiment s'il reste de l'espoir ou pas, et à ce titre-là, les deux personnages sont vraiment très très complémentaires. On a ce Daniel Blake qui est joué par un humoriste et qui fait preuve de beaucoup d'humour et qui est celui qui le premier fait la démarche d'aider, qui est celui qui espère, qui est celui qui se révolte aussi. À côté de ça, on a Cathy qui est complètement résignée. Et on le voit dans deux scènes absolument terribles. Une première scène où elle s'effondre complètement, et une deuxième scène où on découvre la façon dont elle finit par réussir à survivre. Et ces deux scènes sont vraiment extrêmement violentes avec nous, spectateurs. Et donc, y a cette tension entre ces deux personnages. Ce qui est peut-être un peu inquiétant au bout du compte, c'est que celui qui espère, ça soit aussi celui qui est vieux, celui qui est amené à mourir, celui qui finalement est né dans ce welfare state dont Ken Loach n'a pas cessé de déplorer la disparition, et que les jeunes générations sont résignées dans ce film.
Oui, je suis d'accord. Enfin, l'espoir, c'est assez... ça a vraiment une place difficile, même en tant que spectateur. Parce que quand on sort du film, moi, j'étais plutôt abattue, finalement, que révoltée. Enfin, révoltée, forcément, mais plutôt fataliste. Et en me disant que j'étais... Enfin, comment faire, en fait ? Enfin, Daniel, il est toujours confronté à ça, à des murs administratifs, à des pièges même, qui sont là pour l'empêcher même d'espérer. Pourtant, il continue. Mais on lui dit, de toute façon, leur but, c'est que tu t'essouffles, c'est que tu abandonnes. Lui, il veut pas perdre cet espoir. Mais c'est vrai que ça paraît vraiment une machine infernale sans fin, et moi, quand je suis sortie, j'avais vraiment une sensation d'impuissance, Et c'est, je ne sais pas si c'est vraiment ce que j'aurais dû ressentir. Enfin, je ne sais pas si c'est ce que cherchait Ken Loach. À mon avis, non. Il voulait plutôt qu'on cherche à changer le système. Mais ça, on a aussi une impression voilà, de pédaler un peu dans le vide.
Mais, oui, disons que face à ce film, il y a une telle impression justement de pédaler dans le vide que je suis arrivé à un point où je me disais finalement il ne reste plus qu'à poser des bombes. Mais c'est aussi une forme d'aveu d'échec que de ressentir ça.
Ouais, en quelque sorte. C'est vrai que dans cette dernière scène, par exemple, on revoit réapparaître la dame du Pôle emploi, celle qui avait aidé autant qu'elle pouvait, autant que lui permettait la structure de domination dans laquelle elle est prise elle aussi. Voilà, celle qui avait aidé Daniel, et on la voit réapparaître à la fin. Et je trouve elle pose question cette réapparition, quoi. Elle est là, on voit qu'elle voudrait lutter contre le système, et sans doute nous aussi. Et en même temps, on a cette impression, comme vous dites, d'être complètement démunis et de pouvoir juste assister à vœux de faiblesse peut-être et d'échec.
Oui, parce que les personnages ne réussissent jamais à faire autre chose que se céder, se dépanner entre eux et d'une façon qui reste profitable au, entre guillemets, système. Parce que voilà, il y a cette dame au Pôle emploi qui essaye dans le dos de son administration de l'aider à s'inscrire en ligne alors qu'elle ne devrait pas. Il y a ce vigile qui propose à Cathy de se prostituer. C'est une façon de l'aider, finalement, aussi.
Oui, c'est ça. C'est comme si l'espace de jeu, la marge de manœuvre était trop faible pour qu'on puisse faire quoi que ce soit. Et ça, c'est assez triste à constater.
Alors, dans ce film, Daniel, on voit bien que c'est Ken Loach lui-même, ce personnage qui a toujours envie de se battre, même s'il est vieux, même si sa vie est derrière lui. Et le discours à la fin du film, le message qui est porté par Daniel a sans doute bien plus que l'assistance qu'il y a dans le film. C'est un discours qui va directement du réalisateur à nous, et c'est peut-être là qu'il faut voir vraiment l'essence du message de Ken Loach, message qu'il a voulu faire passer toute sa vie. Et c'est intéressant de voir qu'il axe vraiment tout son discours sur la dignité et son articulation avec la honte. Et j'ai l'impression que ce film est un film aussi sur des personnages à qui on refuserait presque le droit d'avoir honte. Et je trouve que c'est peut-être là que réside la vraie beauté du film.
Oui, je suis vraiment d'accord pour le coup. Enfin, c'est vraiment cette idée de dignité. En plus, je crois que ça a eu lieu, enfin, le film aussi, l'idée du film a eu lieu pendant des débats en Angleterre, mais qui ont aussi lieu en France, des critiques, enfin, des gens qui accusent voilà, les pauvres de profiter du système, les bénéficiaires des aides sociales qui en fait les méritent pas. Et je sais que Ken Loach voilà, a mûri son film dans cet objectif aussi, de redonner une dignité, un nom, un visage. Et même si c'est des personnages qui deviennent presque oui, métaphoriques ou symboles d'une masse, le fait de leur donner un visage comme ça, ça, je trouve que c'est vraiment... ça prend une importance vraiment particulière aussi dans, voilà, d'un point de vue politique et dans des temps, ouais, où on peut accuser les gens de profiter du système. Là, ça paraît complètement aberrant quand on voit ce film.
Ouais, rendre un visage et en même temps, c'est des personnages assez... archétypé au sens où voilà, on a le chômeur, la mère célibataire avec ses deux enfants. C'est des personnages assez typés, mais ça n'empêche que leur portrait est fort dans le film, j'ai trouvé. En dépit peut-être des caractéristiques un peu clichés qu'ils peuvent véhiculer, le film dépasse pas mal cet aspect de cliché, je trouve.
D'accord, donc, alors, assurément pas un grand monument artistique, mais malgré tout un film d'une humilité, d'une humanité qui touche profondément, qui bouleverse même peut-être, et qu'on vous encourage donc à aller voir. Il sera encore en salle pour un petit moment. C'est I, Daniel Blake de Ken Loach, Palme d'Or 2016. Et on te retrouve à nouveau, Anastasia, pour les actualités cinéma du moment.
Tout à fait. Il commence à faire froid à Lyon et on bouge vers le nord aussi avec le film russe Le Disciple, réalisé par Kirill Serebrennikov, et le film finlandais Oli Maki, réalisé par Juho Kusmanen. Le disciple nous raconte l'histoire de Binyamin, un adolescent pris d'une crise mystique. Binyamin bouleverse sa mère, ses camarades et son lycée tout entier par ses questions. Les filles peuvent-elles aller en bikini au cours de natation? Les cours d'éducation sexuelle ont-ils leur place dans un établissement scolaire? La théorie de l'évolution doit-elle être enseignée dans les cours de sciences naturelles? Les adultes sont vite dépassés par les certitudes d'un jeune homme qui ne jure que par les écritures. Seule Elena, son professeur de biologie, tentera de le provoquer sur son propre terrain. Ce film donc touche la question sociale aiguë telle que est le fanatisme religieux. Le film a été présenté lors du Festival de Cannes 2016 et a été marqué dans la section « En sortant regard ». Le film « Olé Maki » a été marqué dans la même section au Festival de Cannes cette année. Et il nous parle d'un jeune boxeur qui prétend au titre de champion du monde poids plume. Pour ce faire, elle doit affronter David Moore, son homologue américain plus célèbre que lui sur la scène internationale. Pour Oli, c'est le moment décisif et le sportif doit se concentrer sur son entraînement, mais il passe de plus en plus de temps avec Raya, celle qui était son amie de toujours et est en train de devenir son amoureuse. Et cette romance pourrait bien affecter sa concentration lors de l'entraînement. Et pour finir, ce week-end, nous aurons l'occasion non pas seulement de voir les résultats de la 5e édition du concours Faire un film en 48 heures, mais aussi de choisir le gagnant. Si vous voulez participer au destin des gens réalisateurs et à l'histoire du cinéma même, rendez-vous le 26 et le 27 novembre dans les salles de Comédia.
Merci beaucoup Anastasia. Alors d'étoiles plein les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup donc à Corentin, Marie une deuxième fois et Myriam pour leur participation à l'émission. Et puis un très grand merci à Anastasia qui a préparé et animé cette émission aujourd'hui. Nous vous retrouvons la semaine prochaine sur Transistor pour Mademoiselle et Réparer les vivants. Mais avant de refermer cette émission, deux mots seulement pour rappeler que le cinéma n'aurait jamais atteint la richesse qui est aujourd'hui la sienne sans les cadeaux incessants que lui font les musiciens les plus talentueux depuis sa naissance. À ce titre, la perte d'un grand musicien est bien souvent aussi celle d'une figure majeure du 7e art, ayant marqué discrètement mais durablement les images de ses compositions ou de sa voix. Je vous laisse donc, pour terminer cette émission, avec cet extrait du magnifique et délicat Félix Emeira de Maxime Giroud.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear.